Vous écoutez La Voix de l'Espérance. Bienvenue pour cette émission quotidienne qui vous est proposée et présentée par Oscar Miani. Vous êtes à l'écoute de AWR, la Radio Mondiale Adventiste.
Rencontre autour de la parole. Une prédication enregistrée en public en l'église adventiste de Collonges-sous-Salève. Aujourd'hui, la prédication vous est présentée par le pasteur Jean-Luc Roland sur le thème « L'abréviation de Dieu ».
Aujourd'hui, ce matin, dans cette célébration de Dieu, nous nous réjouissons, et c'est ainsi que le prologue de Jean l'appelle, de fêter, de célébrer, d'adorer la lumière qu'est Jésus-Christ. Ce mois de décembre, très fréquemment, est un mois lumineux. On fête la lumière à Lyon. Et puis, la lumière, on la voit aussi dans les yeux des enfants, sur les marchés de Noël, un peu partout et spécialement dans nos pays occidentaux. Mais ce mois de décembre s'accompagne parfois d'obscurité et non pas de lumière. Une fois de plus, une fois de trop, la violence terroriste a frappé ce pays en s'attaquant à cette si magnifique ville de Strasbourg, belle cité européenne, capitale, comme elle aime s'appeler, de Noël. Et voilà que, après avoir hurlé la grandeur de Dieu, l'assassin a parlé de son geste dans le taxi qu'il avait réquisitionné pour le mener dans ce quartier de Neudorf. Il a parlé de son geste comme d'un nécessaire châtiment des infidèles. Ce rapprochement odieux interroge. Ainsi donc, Dieu serait grand, mais l'est-il vraiment, comme nous le gratifions depuis des siècles? Et puis, douloureuse question, mais capitale, peut-on voir un lien, une connexion entre certaines représentations de Dieu et la violence? Est-ce que Dieu est finalement indemne de ses fabrications, c'est-à-dire de mes fabrications, de nos fabrications, de leurs fabrications? Est-il indemne de cela, Dieu? Tout cela arriva, raconte Matthieu au début de son évangile, pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui se traduit, précise Matthieu, Dieu avec nous. Alors Dieu avec nous, mais comment ? Et jusqu'à quel point veut-il l'être, Dieu, avec nous? Grandeur? Je ne sais pas si le mot est toujours aussi approprié que cela. Les récits bibliques de la nativité semblent chercher à surtout ne pas vouloir éblouir par une démonstration de toute puissance divine, mais soulignent tout au contraire le dénuement de cet enfantement. Et à cette fin, l'œuvre de Luc prend soin d'inscrire volontairement, je le crois, la venue au monde de Jésus dans l'histoire d'un pouvoir impérial qui ne manque pas même de décrire, et on donne des noms romains, d'un pouvoir impérial convaincu du prestige et de l'origine providentielle de ce pouvoir. Je n'ai pas d'espace et de temps pour vous donner des sources pour documenter cela. Mais c'est vrai. Et alors, dans l'Évangile, justement, et c'est pas du tout quelque chose d'anodin, la mention du gouverneur Quirinius, et puis surtout de l'empereur Auguste, établit là, il cherche à établir véritablement, volontairement, un contraste saisissant entre la puissance des forces d'occupation, en réalité. Et puis, cette naissance aussi émouvante qu'ordinaire. Et le narrateur détaille des indices permettant au berger d'identifier le sauveur. Et les circonstances de l'accouchement, il n'en parle pas beaucoup. Aussi douloureux et risqué qu'il pouvait l'être, et surtout dans ces conditions, dans ce lieu aussi inapproprié, sont rapportés, certes, mais avec beaucoup, beaucoup d'humilité, certes, et de discrétion aussi. Et ça n'a pas dû être facile pour maman, pour papa qui était à côté, papa adoptif, mais papa quand même, et pour l'enfant. Et cette discrétion n'est pas le fruit du hasard, j'en suis convaincu. Le signe qui est donné au berger est à chercher ailleurs. Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur qui est le Christ Seigneur. Et voici le, il n'y en a pas 36, il y en a un. Il n'y en a pas 28, il y en a un. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Un nourrisson emmitouflé et, faute de mieux, déposé par sa maman dans une auge. Et ces indications-là, l'être céleste, les qualifie de signes. C'est un mot très fort, ce n'est pas un petit mot anodin, ni dans le Nouveau Testament, ni dans l'Ancien. Et répété trois fois, et cette triple répétition du signe au singulier, ce n'est pas une coïncidence. La mangeoire, et il n'y en a pas d'autre, donné au berger en tout cas. Par ailleurs, la composition du récit met en relief la présence de bonhommes, singulièrement en marche de la société bien pensante, des étrangers qui sont venus de loin, ou de réputation très douteuse. Pas aujourd'hui, évidemment, parce que pour nous, les bergers, c'est mignon tout plein. Douteuse, à l'époque, en tout cas, les bergers. La mangeoire est le signe d'un sauveur, finalement, tout à fait accessible à tous, adoré par ceux dont on n'attend aucune adoration, à l'époque en tout cas. Ce qui veut dire que cette mangeoire, et puis ceux qui sont là, les premiers adorateurs, finalement, cette mangeoire est le signe d'une infinie bienveillance de Dieu, un accueil inconditionnel. Elle raconte une ouverture de Dieu tout à fait inspirante pour vous, pour moi. Noël célèbre une manière d'être Dieu, mais une manière d'être Dieu totalement en dehors des clichés, une manière inouïe d'être Dieu. Cet enfant de Marie ne domine aucunement les humains, pas plus dans ses récits qu'ailleurs d'ailleurs. Il ne les conquiert pas, ce bébé. Il ne domine pas les humains, il ne conquiert pas, il ne harcèle pas les êtres humains. Il tète, emmitouflé dans une auge, de temps en temps changé par sa maman. L'auge de Bethléem ouvre un horizon qui est la signature de Dieu, puisqu'il dit que c'est le signe, signature de Dieu, d'une douceur, d'une retenue, d'une discrétion, d'une pauvreté aussi, voulue, qui caractérise le Dieu que l'Évangile identifie à cet enfant. Alors dans le prologue de Jean, qui a été lu tout à l'heure en partie, certes il n'y a pas de crèche, il n'y a pas de santon, et pourtant un même souffle unit ce texte aux peintures des synoptiques. Il était dans le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre bien, et les siens ne l'ont pas accueilli. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Cette gloire que le Fils unique, plein de grâce et de vérité, tient du Père. Alors, Jean est en train de décrire la venue du Fils unique parmi les siens, en soulignant immédiatement leur résistance à la parole. C'est pas comme ça que ça se passe pour Dieu et pour le Fils. C'est pas parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le Fils de Dieu, et qu'il est venu avec une mission que, automatiquement, waouh, prestigieux, ça marche à tous les coups. Résistance des siens, immédiatement soulignée. Résistance à la parole, à la lumière, à la vie. Et comme le Père, auquel Jean l'associe, le Fils ne s'impose pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on célèbre pendant ce mois de décembre. Et c'est sublime, cette célébration d'un Dieu qui ne s'impose pas, qui ne vient pas pour nous harceler, pour nous contraindre à être ses enfants. Un Dieu qui assume l'inhospitalité et qui plante sa tente. C'est ainsi que le décrit ce texte. dans l'original, parmi les humains. Et il plante sa tente, c'est-à-dire que c'est pas une simple visite, bonjour, ça va, tout se passe bien, j'étais là-haut bien au chaud pendant des milliards d'années, je viens faire une petite visite pour proposer une assistance. Non, non, la parole, elle prend la chair, la vôtre, la mienne, celle de Job, la chair du monde. Plus exactement, elle l'est devenue. Le verbe indique clairement ici, dans l'original, une modification fondamentale. Donc la gloire de Dieu, dont s'émerveille, au verset 18, le narrateur, elle est finalement tout à fait étrangère, mais vraiment étrangère, à la puissance et à l'éclat habituellement connotés à ce mot de gloire. Vous pensez à gloire, je pense à gloire, c'est à Louis XIV qu'on pense, hein ? Enfin, peut-être pas tout le monde, en tout cas moi, qu'avoir les gravures. Ici, il y a une redéfinition de ce que c'est que la gloire de Dieu. L'évangile ici lui donne une signification inédite, inouïe. C'est pas un sacre, hein, en pensant à Louis XIV tout à l'heure, j'avais dans la tête ce portrait de David, ce tableau gigantissime justement, et gigantissime parce qu'il est en train de traduire par la peinture du gigantisme, un sacre. C'est pas du tout le sacre du Fils de Dieu, et cette gloire c'est autre chose. Elle raconte l'allègement d'un Dieu au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Toutefois, très heureux d'être petit dans le sein d'une jeune femme. Et ce rapetissement voulu par Dieu, ça lui appartient d'être rapetissé à Dieu. C'est pas quelque chose qu'il fait extérieur à lui. Il est cela aussi. Ça évangélise Dieu, ça. Noël est l'évangélisation de Dieu. Bernard de Clairvaux en parle comme d'une abréviation de Dieu. Et il le décrit admirablement, mais je n'ai pas le temps de le citer. C'est sublime ce qu'il dit. Verbum abbreviatum. Les récits évangéliques de la nativité évoquent des choses très concrètes, très, très essentielles à l'existence. Hébergement, élevage, généalogie, d'ailleurs un petit peu chelou, conjugalité, sexualité, grossesse, accouchement, tendresse, douceur, abus de pouvoir aussi dans ce contexte, harcèlement, déportation. Ces mots disent finalement que dans la personne de Jésus, Dieu s'est beaucoup impliqué. Il se révèle dans tout ce qui constitue l'existence de l'être humain que nous sommes. Le prologue de Jean réaffirme aussi une impossibilité radicale, fondamentale. Personne, ni vous, ni moi, ni personne, depuis le début, et ce sera comme ça jusqu'à la fin, n'a vu Dieu. C'est important d'en prendre conscience. C'est aussi un message de Noël, ça. Qui ce matin a vu Dieu ? Réponse du prologue de Jean, personne. Et tous les prophètes ont chanté cette parole sublime. Avant le prologue de Jean. Nul concept ne peut fixer Dieu. Le mettre comme ça, à disposition. Tiens, il est ça, il a dit ça, voilà. Il demeure proche de nous, très proche de nous, et en même temps insaisissable, encore plus que du savon et qu'une anguille. Il échappe à toute définition, à tout enfermement, à toute idolâtrie. C'est important de rappeler ça au mois de décembre à des personnes comme vous et moi, qui sommes très heureux de l'inspiration et de la pertinence du décalogue. Il y a un deuxième commandement dans le décalogue aussi, et qui nous concerne très fortement. Pas parce que il y aurait des statues à vénérer, et ma foi, on peut se dire, c'est super de ce côté-là. Passons au suivant, parce que le décalogue, ça commence très bien. Un seul Dieu, pas de problème, je n'en ai qu'un. J'en ai pas 1,17, ni 36, ni 28, j'en ai un. Des statues, il n'y en a pas. Dieu résiste à toute sculpture, y compris des sculptures dogmatiques, qu'il peindrait, par exemple, comme un démiurge omnipotent. Dieu s'est révélé à travers son Fils, Fils unique, qu'il a, disent beaucoup de traductions, qu'il a dévoilé. Et derrière là se cache un mot que nos étudiants à la faculté de théologie et tous les chercheurs en théologie connaissent très 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 bien. Le verbe qui est à l'origine du terme français « exégèse » fait référence, bien sûr, à l'analyse, à l'explication, mais aussi au récit, à la narration, à un accompagnement capable de frayer un chemin, de guider le Fils, nous dit le texte, le Fils qui est l'exégèse de Dieu, c'est vraiment sublimement dit, écrit, le Fils a raconté Dieu. Il en a été le récit lumineux et le seul à l'être aussi clairement. Raconter Dieu. La forme de ce récit la plus crédible par laquelle vous et moi, la femme, l'homme, peuvent accéder à Dieu, à ce Dieu non représentable, mais qui est raconté par Jésus. Une chair humaine, celle du Fils, parfaite exégèse de Dieu, et la seule qui soit céleste, et humaine à la fois. La mangeoire signe quelque chose de neuf sur Dieu. Elle ne révèle pas simplement qui est Dieu, elle fonde aussi qui est Dieu, rappelle son fondement, comment il est constitué. Dire que Dieu se révèle dans la personne de Jésus, dans la mangeoire, ça veut dire que quelque chose dans la mangeoire, à Bethléem, et pendant 33 ans, quelque chose arrive à Dieu. Il lui arrive de passer par où Jésus est passé. La fécondation d'un ovule dans l'utérus de Marie a été le lieu initial de l'ineffable et tellement touchante, tellement douce révélation de la parole qui cherchait, et qu'il a bien fait, puisque nous sommes là ce matin, à planter sa tente parmi nous. C'est une toute autre représentation du divin, loin des César Auguste, des Jupiter, des Toutatis, des Bélénos, et de ces dieux qui sont affirmés grands pour pouvoir tuer des personnes toutes calmes, toutes tranquilles, qui viennent chercher des guirlandes, des jouets pour leurs enfants, parce qu'il est grand prétendument. Jésus n'est pas finalement seulement l'indicateur d'une vérité qu'il faudrait suivre. Je parle, allez-y. Il est cette vérité. Et il l'a dit. Son corps, tout frêle, dans l'écurie de Bethléem, ses genoux devant ses disciples. Il faut le faire quand même, que Dieu, dans la personne de son Fils, se mette à genoux devant vous et devant moi. Encore une déconstruction inimaginable et sublime qu'on peut fêter aussi à Noël, quand il lavera puis essuiera leurs pieds. Sa nudité dans la mangeoire, mais aussi répétée, ensanglantée sur la croix. Ce ne sont pas seulement des attitudes magnifiques à l'initiative de Dieu, mais quand même extérieures à lui, elles sont lui, ces attitudes. Comme on parle de la folie de la croix, dans la sublime épître aux Corinthiens, la première, on peut parler de la folie de la mangeoire, qui traduit quelque chose de Dieu qui dépasse le beau geste. Fut-il sublime ce beau geste ? Il est ce quelque chose. Il raconte pas quelque chose, il est ce quelque chose. Il ne se montre pas simplement fragile, doux, sympathique, vulnérable, pour sympathiser avec celles et ceux qu'il veut rencontrer. Il est Jésus, Dieu, ce dont il témoigne par ses gestes. Avant de nous quitter, quelques leçons rapides de cet événement extraordinaire. Grégoire de Nyssa, un homme dont je vous recommande la lecture, beau cadeau de Noël, Grégoire de Nyssa écrivait très justement que l'humain, en dépit de ce qu'il prétend, se fait des idées de Dieu, il assimile Dieu à rien, au fond, de ce qu'il connaît par expérience et ou par connaissance, à rien de ce qu'il connaît véritablement. Et il continue en disant que tout concept, toute croyance formée pour essayer d'atteindre, de cerner la nature divine ou autre chose, prend d'énormes risques, cette croyance, ce concept, de façonner une idole de Dieu. C'est pour ça que j'ai rappelé quand même une croyance adventiste capitale tout à l'heure, le décalogue. Façonner une idole de Dieu, et Grégoire de Nyssa conclut en disant que ce n'est pas le faire connaître ça. Une idole qui enferme Dieu dans ce que l'on prétend qu'il est indiscutablement. Et c'est le propre de l'idole, ça finalement. Qu'il soit une statue ou qu'il soit une sculpture dogmatique, c'est le propre de l'idole que de sculpter le divin à partir de quoi ? Non pas à partir du divin, mais à partir de l'expérience qu'en fait l'être humain que je suis. Donc finalement, les croyances s'apparentent aussi à ce travail de sculpture lorsqu'elles prétendent à l'universalité, quelles que soient ces croyances, quelles qu'elles soient. Parce que quand Jean-Luc a des croyances, c'est pas les croyances de Dieu, c'est les croyances de Jean-Luc au sujet de Dieu. Et c'est pas du tout ce que je vous demande de croire ce matin. Lorsque ces croyances visent à contrôler, à harceler finalement le croyant, elles fabriquent l'illusion, et c'est là que nous sommes dans l'idolâtrie aussi potentiellement, elles fabriquent l'illusion d'une absence de distance de Dieu. Il est tellement chouchou, Dieu, tellement proche, tellement bénissant, tellement extraordinaire, tellement grand et tellement tout ce qu'on dit de lui, qu'on oublie sa distance radicale. C'est le propre de l'idole, de faire croire qu'il n'y a pas de distance. Il est là, ce qu'il y a sur ce mur, dans ce béton, dans ce bois, dans ce métal, dans ce concept. fabrique l'illusion d'une absence, de distance, d'un Dieu qui finalement nous renvoie quoi ? Notre propre expérience ou pensée au sujet de sa personne. En imaginant détenir le vrai de Dieu, le vrai sur Dieu, finalement le croyant que je suis dépossède Dieu d'une part terrible, impressionnante de son être, sa différence, son altérité, sa liberté et sa résistance à Dieu, sa résistance à être possédé. Comme si l'idole et le concept finalement étaient superposables, coïncidaient avec Dieu lui-même. Et ainsi peut-il en être de sa puissance, de sa prétendue grandeur. Ainsi peut-il en être. Les rues ensanglantées de Strasbourg nous l'ont rappelé terriblement. Serait-ce la projection d'un besoin que de qualifier à tout bout de champ Dieu de gigantesque ? Est-ce que c'est le besoin de croyants qui se cache là derrière ? Le besoin d'ecclésiastiques ? Le besoin de groupes religieux, d'églises, qui peut prendre le visage de l'image taillée qu'elle forge en imaginant qu'il s'agit de Dieu lui-même ? Les récits de la nativité bousculent, purifient certaines idées qu'on associe à Dieu. Ils invitent, ces récits de la nativité à penser Dieu, mais autrement, comme un Dieu tellement à l'opposé, et on ne peut pas plus à l'opposé que ce Dieu qui a été présenté dans les rues de Strasbourg ou à Berlin il y a quelque temps. Penser Dieu autrement, non sur le mode de la toute-puissance, de l'efficacité, en dehors des attributs de contrôle, de maîtrise, de pouvoir que la théologie et la philosophie lui ont profusément collé à la peau. Il incarne, il est le Seigneur, et on a du plaisir à l'appeler Seigneur, mais il incarne une autre manière de comprendre la seigneurie aimante, respectueuse, porteuse de vie. Une autre manière d'envisager la seigneurie, la gloire de Dieu. Noël, c'est un Dieu radicalement inassimilable, présent là où on ne le pressent pas, dans la fragilité d'un chérubin, d'un petit poupon que sa maman vient de changer dans une étable. Et l'ange nous dit que c'est comme ça qu'il signe Dieu. C'est sublime, ça. Le Dieu qu'il interprète, Jésus, dont il fait l'exégèse, par son corps, par sa chair, par ce qu'il est, son attitude, ose une faiblesse qui appartient à ce qu'il dit être. La douceur de l'enfant de Bethléem, c'est celle d'un Dieu plus grand que sa grandeur, plus fort que sa force. Alors oui, la violence, quel est le visage du mépris, de la boucherie, de la détention de la vérité, de l'idolâtrie, de la terreur, du harcèlement, terreur qui frappe aujourd'hui nos pays, bien de cette violence. Le Nouveau Testament ne dit pas qu'elle va s'arrêter, ne dit pas que les choses vont s'arranger à 100%, il ne dit même pas le Nouveau Testament que nous allons être épargnés. Quelques jours avant cet attentat, Marjorie, Valérie et moi, nous étions là où s'est produit cet attentat. Pourquoi eux ? Pourquoi pas nous ? C'est pas parce que je suis pasteur adventiste que j'ai été épargné. Ce serait un blasphème de croire ça. Le Nouveau Testament ne nous dit pas que nous serons épargnés, il nous dit que du cœur de ce chaos de notre monde, Dieu nous offre une espérance. La Bible décrit la personne de Dieu sous la forme d'un tout petit enfant, d'un agneau aussi, magnifique image, qui fait face à un dragon. Alors les dragons de notre monde, nous les connaissons bien, les journaux n'arrêtent pas de parler de ces dragons, de les décrire, des dragons qui mangent les agneaux, mais qui les assassinent aussi sur les marchés de Noël à Berlin et à Strasbourg. Et pourtant, cette même Bible nous promet que l'agneau en est vainqueur. Pas seulement en sera. Alors en cette fin d'année 2018, pas tout à fait quand même, il reste encore une quinzaine de jours à vivre pendant cette période 2018, la Sainte Écriture nous rappelle qu'être témoin de cette bonne nouvelle, c'est aussi suivre le chemin de l'enfant de Bethléem, de l'agneau. Il a choisi la vulnérabilité, la douceur pour planter sa tente, pour se montrer aux humains. Et paradoxalement, et c'est une bonne nouvelle, entre ses mains, la fragilité est créative, porteuse de vie, de paix. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix pour les êtres humains qu'il aime. tellement.
C'était une prédication du pasteur Jean-Luc Roland, enregistrée depuis l'église adventiste de Collonges-sous-Salève. Cette émission a été produite par Hop Radio.
Au nom de l'amour.
Est-ce un nouveau film ?
Non, c'est le nouveau cours de l'IEBC.
IEBC ?
Oui, l'Institut de l'étude de la Bible par correspondance. Tu vas sur le site www.iebc.org et tu découvres tous les cours gratuits.
Tu as raison. Au nom de l'amour, ça vaut la peine. Ce cours m'a vraiment interpellé. www.iebc.org.
Notre émission est maintenant terminée. C'était la Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance. Je vous souhaite une très bonne continuation. Que Dieu vous bénisse. À demain. Thank you.